Backstage le podcast, ce sont Margot Delpierre, qui est journaliste radio, et Thomas Langlin, qui est technicien supérieur du son. Et ils réalisent tous deux ces podcasts pour nous faire découvrir l'univers des artistes, des artisans, des techniciens, et en quelques mots, les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Et vous pourrez retrouver l'ensemble de tous leurs podcasts, il y en a quand même un certain nombre à présent, sur leur site backstagelepodcast.com, Backstage le podcast tout attaché en minuscules. Alors après avoir entendu ces dernières semaines le percussionniste Marc Chantreau nous raconter en 4 épisodes un peu de sa carrière en studio et sur scène, cette semaine, le premier épisode du podcast dédié à Pascal Bordet. Pascal Bordet, une costumière de grand talent qui habille le cinéma français et qui a été maintes fois primée. On pourra ajouter que Pascal Bordet est également l'auteur du livre « Splendeur et misère d'une costumière » sous forme de journal intime illustré. C'est un album composé d'aquarelles de l'auteur, de photographies de Laurencine Lott et un ouvrage préfacé par François Morel. C'est aux éditions Hervé Chopin et c'est sorti en 2018. Pascal Bordet lève le voile sur un pan des coulisses de son métier au micro de Margot Delpierre. Montage et mixage, Thomas Langlin.
Son nom ne vous dit rien, pourtant elle a habillé les plus grands comédiens français. Pascal Bordet est costumière. Michel Bouquet, Isabelle Carré, Francis Huster, Michel Aumont ou encore Annie Dupéré ont porté ses créations. Elles lui ont valu d'être nommée une dizaine de fois aux Molières et de recevoir de nombreux prix. Dans cet entretien enregistré dans son atelier, Pascal Bordet se confie longuement sur l'amour viscéral qu'elle porte à son métier, qu'elle aborde aussi dans son livre « Splendeur et misère d'une costumière » aux éditions Hervé Chopin. Les sacrifices personnels pour y arriver, le travail acharné, un travail de fourmi, les merveilleuses rencontres, Pascal Bordet nous raconte l'envers du décor.
Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre.
Bonjour Pascal Bordet.
Bonjour Margot.
Votre grand-mère était couturière, votre tante modiste. C'était une évidence pour vous de devenir costumière ?
C'était une évidence de coudre à 5 ans, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire là où j'étais. Donc j'ai profité du savoir de mes aînés et c'était mon éducation, c'est-à-dire que je suis créatrice. Mais au-delà de la création, je sais aussi donc coudre et peindre et rafistoler et rataponner et faire de l'habillage un peu multipatte.
C'était un rêve pour vous ou pas du tout ?
Oui. C'était un rêve et je suis allée au-delà de mes rêves. Ça paraissait inaccessible, mais j'ai désobéi à tout le monde. Et je n'ai écouté que moi et j'ai bien fait. Parce que j'ai tout lâché pour faire ce métier. Et c'est un métier qui est au-delà d'un métier. C'est passionnel, c'est jour et nuit. C'est SOS Costume, bonjour. Et c'est bien plus que juste faire de la couture. C'est habiller des textes, c'est habiller des âmes, c'est habiller des vies.
Pourquoi vous me dites que vous avez tout lâché pour devenir costumière ?
Je viens d'une famille qui ne voulait pas du tout entendre parler d'artistes ni de théâtre parce qu'ils ne savaient même pas que ça existait. Mais même moi, je ne savais pas que ça existait quand j'étais petite, ce que je faisais. Pourquoi je dessinais, pourquoi j'habillais, pourquoi je peignais, pourquoi je cousais. Je l'ai découvert. Je suis allée le chercher. Dès que j'ai été majeure et que j'ai pu partir, je suis partie à la recherche de ça. Je l'ai voulu, je l'ai cherché et je l'ai trouvé.
Costumière, on peut dire que c'est une vocation qui s'est imposée à vous ?
Ah oui, c'est une vraie vocation, oui. Ah oui, il faut sacrifier beaucoup de choses pour être disponible 24 heures sur 24, pour avoir l'esprit entièrement libre et dévoué à toutes les demandes, quelles qu'elles soient, artistiques, économiques, individuelles, personnelles. Moi, je n'ai habillé que des grands auteurs et des grands acteurs, donc il faut être à disposition, au service. Ça s'appelle au service, ça n'existe plus ça. Mais moi, je suis au service.
Quel genre de sacrifice ?
Pas de vie, pas d'autre vie, pas de vacances. Pas de vacances telles que les gens l'entendent et en ont besoin. Moi, je n'ai pas besoin de vacances, mais c'est ma vie. Ma vie, elle est réglée le matin avec les ateliers, l'après-midi avec les répétitions, le soir avec les représentations. C'est un rythme de vie qui laisse très peu de place à autre chose. J'ai pas de hobby et j'ai pas de vacances et j'ai pas de famille. Et ma famille, c'est le théâtre, c'est mon métier.
Mais sans regret.
Aucun. À refaire. absolument. Même encore plus, tant que je pourrais.
Dans la préface du livre « Splendeur et misère d'une costumière », François Morel dit dans la préface que vous êtes entêté, zinzin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui, dangereuse, capable de risquer sa vie s'il le faut pour un tissu, un vêtement. Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Oui, il a raison. Et d'abord, il m'a toujours très très bien croqué, François Morel, parce qu'il sait faire ça et il me trouve inspirante. Donc, il m'a vue au travail. Oui, je suis allée au bout du monde pour trouver une étoffe, une ombrelle, un chapeau, une paire de chaussures.
Vous avez voyagé ?
Je voyage dans ma tête d'abord et je voyage, j'ai beaucoup chiné, je vide les placards, les armoires, les tiroirs, je fouine partout.
Vous allez aux puces beaucoup ?
Je vais beaucoup aux puces et puis maintenant il y a les braderies, les vide-greniers, il y a les gens qui gardent, donc on m'appelle pour vider les placards.
Vous avez commencé à 18 ans à l'Opéra Garnier, c'est ça ? C'est là que vous apprenez tout ?
Oui, j'avais commencé avant dans une compagnie théâtrale, mais quand je suis rentrée à l'Opéra, ce qui est la plus dure école, c'est aucun cadeau, là j'ai tout appris. J'ai appris à faire les courses, j'ai appris à acheter du fil et des aiguilles, j'ai appris à connaître les tissus, j'ai appris à faire une canette, j'ai tout appris. C'était un très dur apprentissage. Très difficile, mais merveilleux et indispensable.
Il était comment, Rodolphe Nureyev, puisque vous l'avez un petit peu connu ?
Je me faisais toute petite pendant les répétitions à côté de lui. Je le regardais, je voyais son exigence, son autorité incroyable à l'époque, comment on arrêtait les répétitions. Il voyait tout, il savait tout. Et j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des patrons aussi exigeant et merveilleux que Jean-Claude Brialy, par exemple, ou George Wilson, comme Villard, quoi, qui étaient des gens qui étaient toujours en recherche, qui étaient toujours à vouloir le meilleur, à vouloir le travail, à vouloir l'exceptionnel.
Vous avez eu un mentor, justement, dans votre profession ?
J'en ai eu plusieurs, mais Jean-Claude Brialy, ça a été merveilleux parce que à l'époque, il y avait le Festival d'Anjou, Ramatuelle, on tournait l'été, les films, on était au théâtre l'hiver. C'était quelqu'un qui travaillait énormément, qui exigeait énormément. Et moi, j'ai adoré pouvoir répondre à une exigence parce qu'elle allait avec la mienne.
C'était qui, cette personne, Jean-Claude Brialy ?
Jean-Claude Brialy, c'était d'abord un comédien en 59 et puis c'est devenu passionné qu'il était de tout. Il est devenu directeur du Théâtre des Bouffes Parisiens, il a acheté le théâtre, il l'a rempli, il tournait, il était aussi réalisateur, il a fait des films et c'était merveilleux parce qu'il savait tout. La vie ne s'arrêtait jamais avec lui, on était toujours dans la folie et le merveilleux de ce métier.
Dans votre livre, vous mentionnez Suzanne Lalique.
Oui, alors j'ai rencontré Suzanne Lalique, j'étais jeune. Elle était une vieille dame à l'époque, elle avait 92 ans. C'était une grande, grande décoratrice des années 50. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Vous allez être mes yeux ». Elle voyait presque plus. C'était une rencontre insensée, d'une grande, grande époque passée. Et donc j'ai commencé toujours avec des grands.
C'est comme ça qu'on apprend le mieux en étant sur le terrain directement, un peu comme un apprentissage ?
On apprend en le faisant. C'est aussi comme ça qu'on rencontre les autres, c'est en faisant des choses avec eux. C'est en partageant et ça suffit pas de dire je sais, il faut le faire.
Vous apprenez encore aujourd'hui ?
Oui, parce que chaque spectacle est une aventure avec d'autres personnes et d'autres époques. Il faut se réadapter sans arrêt. Il y a des boutiques qui ferment, il y a des fournisseurs qui disparaissent. Il faut les remplacer, il faut trouver, il faut chercher et c'est une énigme à chaque fois.
On a l'impression que cette partie-là de votre métier, ça vous plaît beaucoup, la recherche ?
Oui, d'abord, moi, je cherche au départ sur une page blanche, hein, je dessine, je crayonne, je peins, je cherche les couleurs, je cherche après les matières et après je cherche les objets et je cherche surtout à résoudre tous les problèmes qu'on trouve quand on monte une pièce.
Quel problème, par exemple ?
J'ai mal aux pieds, j'ai froid, ça me serre, je ne veux... mais non, cette cape est trop lourde, mais non, ce chapeau est trop petit, mais aïe, 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 je ne peux pas rentrer dans les gants, j'en veux d'autres.
C'est faire aussi avec les acteurs et les actrices.
Oui, parce que ce sont des personnes vivantes qui ont à porter les costumes, qui vivent avec, qui répètent avec, qui jouent avec, qui ont chaud avec, qui ont peur avec. Et aussi, ils cherchent. Eux, ils cherchent leur personnage. En fait, ce qu'ils me demandent à moi, c'est comment tu vas m'aider à trouver mon personnage. Alors, ça passe par quelle couleur est ma robe, comment sont mes bijoux, est-ce que c'est lourd, est-ce que j'ai un sac, est-ce que j'ai une ombrelle, comment je porte mon chapeau et comment je m'assois avec ça.
Pour vous, les costumes, on a l'impression que c'est pas qu'un accessoire, c'est plus que ça.
Bah, c'est au-delà de ça, c'est un langage d'abord, ça veut dire quelque chose. Quand on voit un personnage qui arrive à l'acte 2, scène 3, avec un manteau, une cape, une canne, on doit comprendre tout de suite d'où il vient, où il va, qui il est, qu'est-ce qu'il va dire. Quelquefois, le costume, il précède le langage, il précède le texte. On en parle, on doit savoir qui il est. Donc, bien sûr que c'est juste bien au-delà que juste un vêtement. C'est pas un vêtement, c'est un costume, c'est une parole.
Comment vous définiriez votre métier alors ?
Tel que je l'entends moi, c'est-à-dire de la page blanche à la première représentation et même jusqu'à la dernière représentation, puisque tant que mes costumes sont à l'affiche, je suis responsable, donc il y a un suivi. C'est, disons, appelons ça créatrice de costumes, puisqu'il y a vraiment une création et que... Mais c'est au-delà de ça, puisque je passe le relais aux habilleuses. C'est elles qui sont tous les soirs dans les coulisses. Je dois leur apprendre aussi, mais comment on fait pour repasser cette robe? Et comment on fait pour enlever une tache? Et comment on fait quand le chapeau est cassé? Et comment on fait pour réparer une chaussure, un ruban, un sac, une ombrelle, un gant? Il faut savoir tout faire. Et je dirais juste savoir tout faire.